Bonjour chers auditeurs, chères auditrices de Radio Bartas, bienvenue sur ce créneau conférence. Aujourd'hui c'est une conférence sur la gestion de l'eau, la réappropriation d'un bien commun qui a eu lieu le vendredi 30 novembre. C'est une conférence donnée par René Révol, maire de Grabelle et membre de la France Insoumise.
Je vais aborder la question que vous m'avez demandé d'aborder, la question de l'eau. Mais il faut bien comprendre que cette question de l'eau, elle est très sensible parce qu'elle fait comprendre à tout le monde le fait que les citoyens doivent se réapproprier les biens communs. Or, toute la philosophie économique et politique qui s'est mise en place dans les années 80 consiste dans la privatisation de tous les biens communs. Et que tout ce qui peut être transformé en marchandise doit l'être, en partant de l'affirmation libérale selon laquelle, dès lors qu'il y a le marché, c'est plus efficace. C'est moins cher et plus efficace. Tout ça est une catastrophe aujourd'hui qui aboutit à cette situation de désordre dans laquelle nous sommes et où justement il nous faut retrouver une manière d'organiser la société qui puisse répondre aux besoins des gens. Et dans cette manière d'organiser la société qui répond aux besoins des gens, eh bien, la réappropriation collective des biens communs joue un rôle central. Ça me paraît essentiel. Et dans ces biens communs, l'eau a un caractère symbolique essentiel. D'abord, parce que l'eau est au cœur même de la vie. Un individu qui est privé totalement d'eau meurt en quelques jours. Notre organisme est composé à 90% d'eau. Et c'est une condition de la vie, pas que notre organisme, toute la vie autour de nous, toute la biodiversité humaine, animale et végétale est liée à l'eau. Et que le changement climatique en cours, disons, c'est très frappant, après nous ici dans le sud, on a moins conscience de la sécheresse qui marque cette année le nord de la France, le nord au-dessus de nous, parce que vous n'allez pas loin, dans les Alpes, voilà. Sécheresse est profonde et que la question de l'eau, on la ressent moins nous ici directement. Je le sais, moi je suis tous les jours sur mon ordinateur, la nappe qui est sous la source du Lez, qui alimente tout le secteur de Montpellier, mais ça m'intéresse. Même si j'ai été viré de la vice-présidence de la métropole, M. Sorel avait décidé de rallier M. Macron, et pour ça il a éliminé tous ceux qui n'étaient pas avec M. Macron. Bon, maintenant que M. Macron chute dans les sondages, il a décidé de plus appeler la République en marche. Ça, c'est la discipline secondaire. Mais moi, je continue à suivre tout ça, et je vois que la nappe est très forte. Mais vous allez dans certaines régions, jamais on a vu des étiages aussi bas pour les rivières. Jamais on a vu un tel degré de sécheresse. Et notamment, vous avez en Allemagne, du côté de Stuttgart, une rivière qui est descendue tellement bas qu'elle a fait apparaître une pierre sur laquelle il était marqué « Ici, la mort frappe ». Parce que cette pierre avait été taillée lors d'une grande sécheresse qui avait eu lieu au XIVe siècle. Et que cette pierre n'avait jamais apparu. Jamais on l'avait vue. Donc on a retrouvé une sécheresse qui n'avait jamais existé. Et donc on est dans une situation où le changement climatique fait de l'eau un enjeu essentiel de toute l'organisation humaine, non seulement de la vie des hommes d'une manière courante, mais de leur activité économique, et notamment agricole. Donc, l'eau est un bien commun, et ne peut pas être traitée comme une marchandise. Ça a été un grand combat des années 90. Il y a des personnes qui ont su s'investir dans ce combat. Je repense, par exemple, à la plus célèbre d'entre elles, Danielle Mitterrand, qui a fait avec France Liberté une campagne pour disons, les régies publiques de l'eau, qui a permis de toucher un public très large. Et donc, avec les associations ATTAC, avec toute une série, on a mené ces batailles pour que l'eau redevienne publique et qu'il y ait une réappropriation collective de l'eau. Alors, cette bataille, une des premières qui a été gagnée en 95 à Grenoble, puisque l'eau avait servi de vache à lait à M. Carignon, le maire de Grenoble, et qu'il a fini en prison, comme vous le savez, puisque détourné des cadeaux donnés par les grandes multinationales de l'eau. Et ça a permis de mener une campagne à Grenoble, qui fait que c'est la première grande ville qui est revenue en régie publique. Et puis en 2001, il y a eu Paris, et puis depuis, ça a été Paris qui a mis 7 ans pour passer en régie publique, en 2008, régie publique, et voilà. Et puis vous avez d'autres villes qui ont continué à évoluer, y compris des villes qui sont de couleur politique, qui ne sont pas proches de la gauche, hein, comme le cas de Nice, par exemple, qui est en régie publique. Donc voilà, c'est un mouvement général. Il faut quand même savoir que dans le reste de l'Europe, les trois quarts des villes sont en régie publique. J'ai envie de le dire. C'est la France qui est la championne des multinationales de l'eau. On a d'ailleurs les trois plus grandes multinationales de l'eau. Veolia, Suez et la Sorgue. Ces trois qui ont beaucoup de marchés dans le reste de l'Europe et qui cherchent à utiliser la législation européenne pour que les grandes villes passent au privé. Et par exemple, des villes comme Munich, par exemple, sont en régie publique. Il y a plein de grandes villes qui sont en régie publique, c'est pas une aberration. Donc le mouvement de lutte et de retour en régie publique en France est puissant, mais il se heurte à des multinationales qui sont des véritables puissances financières. Il faut faire très attention, qui sont extrêmement puissantes. Donc voilà, ce mouvement est là. Donc sur Montpellier, nous avons fait campagne avant 2014 pour le retour en régie. Et on a les premières prises de position ont eu lieu à la fin de la décennie 2000, autour de 2008-2010. Et nous disposions d'une situation particulière qui va être maintenant celle de tout le monde. C'est que vous savez, ou si vous ne savez pas, voilà, c'est important à savoir. Ce ne sont plus les communes qui auront la compétence de décider sur l'eau. Ça sera les communautés de communes, les agglomérations, les métropoles. Ça sera les EPCI, l'intercommunalité. À partir de 2020, tout le monde aura basculé. À Montpellier,
par
à partir
de... Territoire rural. Pas en territoire rural. C'est en 2026.
Voilà. Il y a une exception pour les territoires ruraux. En 2026, voilà, exactement. Surtout ceux qui ont déjà une organisation, mais ça ne les empêche pas, Veolia et les autres, de s'intéresser aussi à ces territoires ruraux et de dire, ben, nous, on peut gérer l'eau à notre place. Et à ce moment-là, les communes peuvent encore ici jusqu'en 2026. Voilà. Donc on se retrouve dans cette situation où en 2010, la compétence est à l'agglomération de Montpellier. Et donc on mène la bataille pour qu'à l'échelle de l'agglomération de Montpellier, des 31 000 communes, eh bien, il y ait une seule, unique régie de l'eau. Et cette bataille, au début, je m'en souviens, on était peu nombreux. Et on nous disait, on ne saura pas faire. Alors, il y a plein de choses qui sont fausses dans les arguments qu'on nous avance. Par exemple, on nous dit « Oui, mais alors, vous allez recruter des fonctionnaires. Et donc, vous allez faire gérer l'eau par des fonctionnaires, au lieu de faire gérer par une boîte privée. Ça sera moins efficace, parce que dans leur tête, les fonctionnaires sont moins efficaces. » Je ne vais pas intervenir sur la défense des fonctionnaires ici, parce que d'abord, c'est faux. Ce ne sont pas des fonctionnaires. Il faut savoir que dans les régies, il y a les régies historiques, celles qui datent d'avant le décret Poincaré de 1926, et qui, elles, sont gérées directement par les municipalités, donc par des fonctionnaires territoriaux. Parfois, dans les toutes petites communes, il y a un fonctionnaire territorial qui s'occupe entre autres de la petite régie de l'eau, parce que l'eau est présente et que ça se gère depuis des décennies. Depuis 1926, depuis le décret Poincaré, eh bien, on n'a plus le droit de faire de nouvelles régies municipales de l'eau. Donc, on est obligé de faire un établissement public, industriel et commercial, un EPIC, un établissement public qui est possédé par la puissance publique, qui gère, mais qui embauche des gens de contrat privé. On peut avoir des personnels municipaux et territoriaux qui sont détachés, mais le mode de gestion relève du droit du travail et non pas du code des collectivités territoriales. Donc, dans les nouvelles régies modernes, en France, il y a sur 66 millions d'habitants, il y en a environ 15 millions qui sont régis par des régies publiques. Donc, eh bien, dans ces régies publiques, l'immense majorité sont des nouvelles régies, et ces nouvelles régies, eh bien, elles ont des salariés qui ont les qualifications nécessaires et qui sont régis par le droit privé du travail. Voilà. C'est faux de dire que c'est des fonctionnaires. Deuxième chose, on nous dit, oui, mais alors, qu'est-ce que vous allez provoquer le chômage des salariés? Parfois, c'est avancé par des organisations syndicales présentes dans ces entreprises. Il faut respecter. Que dire, mais pas nous mettre au chômage. Eh bien, c'est impossible de les mettre au chômage pour la raison suivante. C'est que lorsque vous passez de la délégation au privé à une régie publique, la loi vous oblige à embaucher les gens qui étaient dans le privé. Que vous les faites passer. Et sur Montpellier, par exemple, naturellement, s'ils sont d'accord pour passer. C'est pour ça que nous, on avait pris le soin de mener cette campagne pour la régie en accord avec les organisations syndicales et avec la plus puissante organisation syndicale de Veolia, la CGT, pour que les choses se passent au mieux. Ce qui n'a pas été le cas, par exemple, à Nice, où il y a eu des conflits. Mais si, ça s'est passé au mieux. Et naturellement, les gars de la CGT de Veolia, quand ils sont venus à la table de négociation, ils nous ont dit, nous, on veut bien passer en régie parce que ça correspond à notre philosophie politique. On est tout à fait d'accord. Mais attention, les gars, on garde les mêmes avantages qu'on a chez Veolia. Syndicalistes, ils ont tout à fait raison. Et nous, on leur a dit oui. On leur a dit oui, et on a calculé en disant, ben, voilà, on fait vivre une entreprise publique avec les salariés de Veolia. Alors, si vous voulez, on a gardé tous les techniciens et tous les ouvriers. Les cadres n'ont pas voulu venir, et on n'avait pas trop envie d'eux non plus. Donc, là, on a eu 56 salariés qui ont transféré sur la région. Donc, ben, c'est pour vous expliquer qu'on vous dit que c'est impossible. Mais non, si, c'est possible. C'est parfaitement possible. Voilà, donc, il y a ce deuxième argument qu'on nous avance. Donc, la technicité, on l'a. Parce que on a basculé en régie, on a pris la décision le 7 mai 2014, et pour basculer en régie, on avait 18 mois. C'était la période la plus courte de tous les passages en régie. Je vous ai dit tout à l'heure que Delanoë à Paris avait mis 7 ans. On en avait 18 mois. Donc j'avais un peu la trouille quand même, pour vous avouer. La trouille, si on se tentait, bon. Mais bon, on y est arrivé. Il y a plein de règles qu'il fallait régler. Voilà, des choses, des discussions, d'organisation, etc. Et on a basculé le 1er janvier 2016. Le 1er janvier 2016, pour la première fois à minuit, le 31 décembre, je n'ai pas bu de champagne, j'ai bu de l'eau, pour voir si ça coulait du robinet. Il n'y a pas d'interruption, c'est les mêmes qui font le boulot, c'est pareil. Simplement, voilà, c'est public et c'est plus privé. Et à partir du moment où c'est public, les préoccupations ne sont plus les mêmes. Parce que la préoccupation d'une entreprise privée qui gagne de l'argent en vendant de l'eau, que vous êtes obligé d'acheter. C'est pas comme pour la téléphonie, ça, vous ne pouvez pas choisir votre opérateur. D'accord ? C'est le gars, il vous fournit l'eau, il n'y a que lui qui vous le fournit. Lui, il va chercher à vendre plus d'eau. Ça fait gagner de l'argent s'il vend plus d'eau. Si quelqu'un consomme 120 mètres cubes par an, puis qu'il n'est pas prudent, et qu'il ne regarde pas un peu comment ça se passe, et que ça monte à 140, à 150, alors la loi encadre et oblige les opérateurs à le signaler aux consommateurs, mais eux, ils ne sont pas mécontents. L'objectif d'une régie publique, ce n'est pas de vendre plus d'eau, c'est même d'en vendre moins. C'est-à-dire que l'objectif d'une régie publique, c'est de préserver cette ressource vitale qui est menacée d'épuisement. Donc, on a une autre logique. Ensuite, on fait des campagnes auprès de la population pour qu'elle fasse des économies d'eau, et on les accompagne dans tous les dispositifs qui permettent de consommer moins d'eau, de moins en gaspiller. Donc c'est une autre logique qui est en place avec une régie publique. Alors il faut, là il y a un débat, j'espère que ce que je dis n'est pas trop technique, il y a le statut de cette régie. Ça a été une bataille, ça on ne se rend pas compte. Parfois la bataille, on ne voit pas qu'elle porte là-dessus, moi je ne savais pas, ça porterait là-dessus. Au bout de quelques mois, en mettant les choses en place, toute la bureaucratie de l'administration est arrivée vers nous et nous a dit, ah, il faut une régie avec simplement l'autonomie financière. Ça, c'est obligatoire, sinon c'est pas une régime. Voilà. L'autonomie financière. Mais il faut surtout pas qu'elle ait la personnalité morale. Et vu les gars qui me disaient ça, j'ai été méfiant. J'ai étudié. Et c'est clair, parce que si vous faites une régie avec simple autonomie financière, ça signifie que c'est les élus qui décident tout. C'est le conseil métropolitain qui décide tout. Bon. Or, nous, on ne voulait pas faire simplement une régie publique. On voulait faire une régie publique, citoyenne, démocratique. Et donc, on a décidé de faire une régie avec sa propre personnalité, qui est publique, et qui est naturellement sous le contrôle de la collectivité. Elle ne peut pas, genre, elle passe un contrat avec la collectivité. Sinon, la démocratie, c'est encore supra-universel. Et donc, on a installé, par exemple, la différence fondamentale, c'est que le conseil d'administration n'est pas composé que d'élus. Il y a les élus des communes, il y a 13 communes concernées à Montpellier, puis 12 communes petites autour, sur la période de la régie. Il y a des contrats qui durent plus longtemps pour d'autres communes, etc. Mais ça représente quand même la grande majorité, sur 450 000 habitants, ça représente 333 000 personnes couvertes par la régie. D'accord ? 77 000 abonnés, 337 000 personnes, autour de 30 millions de mètres cubes distribués chaque année, voilà. Et un budget qui tourne autour de 30 millions d'euros, donc c'est pas une petite affaire, d'accord ? Et donc cette régie, elle a dans son conseil d'administration des représentants des élus. Mais elle a à côté des représentants des élus, des représentants du personnel. Le personnel élit ses représentants dans le conseil d'administration. Des représentants des associations environnementales qui désignent leurs délégués dans la question. Dans le groupe. Également des personnalités qualifiées qui se sont engagées ou par leurs compétences sur l'eau, les universitaires. Vous savez qu'à Montpellier, on a un centre de recherche sur l'eau très développé, donc il y a des personnalités qui travaillent sur l'eau et qui sont dedans. Et ce conseil d'administration met des gens qui n'ont pas la même, culture de fonctionnement. Je ne sais pas parmi vous s'il y a certains qui sont élus dans un conseil municipal. Vous savez parfois comment ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a des textes officiels qui passent et tout, puis à la fin, il y a la routine qui s'installe, et les élus, ils ont souvent tendance à la fin, à lever la main en cadence. On demande qui s'abstient, qui vote contre, on ne demande jamais qui vote pour. Et donc, il ne lève même pas la main. Et puis, on voit les délibérations, et si vous allez dans le public, vous êtes toujours un peu écœuré de certains conseils municipaux, parce qu'il n'y a personne qui parle, et que ça défile et tout, et c'est le maire qui fait tout. Alors, s'il y a un opposant là, qui fout un peu la merde, il y a un opposant, une fois que le débat a lieu, hop, ça vote. Et puis parfois, délibération passe, puis c'est très technique, on ne comprend pas. Et là, c'est complètement différent. Et les élus qui étaient dans le conseil d'administration ont dit ça nous a vraiment changé. Parce que les gars posent des questions. Ils posent des questions très précises sur les fuites d'eau, pourquoi le taux était plus faible, quel type de moyens ils mettent en place. Ils ne délèguent pas, ils veulent contrôler. Et donc le fait d'avoir des citoyens impliqués crée une ambiance différente. Alors, si j'avais pu faire élire le conseil d'administration par les citoyens, j'aurais été très content, mais la loi me l'interdit. Donc, on a été obligé de mettre des associations. Et donc, dedans viennent des gens qui n'ont pas du tout la culture des élus habituels. Alors, il faut aller plus loin. On se dit, oui, mais l'eau, ça n'intéresse pas les gens. Alors, déjà, la preuve, faire une réunion à Florac, pleine bataille sur l'eau, et vous soyez aussi nombreux, c'est bien, la preuve, ça intéresse les gens. Et je vais vous donner l'expérience de ma commune. Donc, ma commune, elle fait actuellement 8200 habitants. Et elle est dans la première périphérie de Montpellier, derrière la Paillade. Et donc, dans cette commune, en 2012, le débat démarre sur qu'est-ce qu'on fait en 2014, etc. Il fallait prendre des dispositions avant les élections. Ça crée un axe. On décide des trucs avant les élections, puis après, une fois, si vous changez de majorité, vous êtes pieds poings liés à l'entreprise privée pendant 7 ans, 12 ans ou 25 ans. Donc, il faut absolument veiller à ça. Et on commence la campagne, et dans ma commune, nous décidons de organiser un référendum citoyen. Alors, la première chose qu'on me dit, vous n'avez pas la compétence. C'est vrai, c'est la métropole compétente. Donc, me dit le préfet, vous n'avez pas le droit d'organiser un référendum. Je dis, c'est pas grave, j'organise une votation citoyenne. Ils me regardent, bah oui, ils me disent, c'est la même chose. Simplement, c'est pas un référendum officiel. c'est le référendum que nous décidons, nous. Donc c'est une votation citoyenne. C'est plus suisse, mais bon, voilà, ça a marché. Et donc, on sort les listes électorales, hein, pour tout le monde, et on a... Genre, on organise un débat public dans lequel on fait venir un partisan de la régie, un partisan de la délégation privée. Veolia a refusé de venir, mais il était dans la salle, il s'est perdu. Et le gars de la sort, très honnêtement, est arrivé et a défendu. Le débat a duré toute une soirée, il y avait 200 personnes, ça marchait très bien. Et puis, après, on a envoyé un document à tous les électeurs, avec tous les arguments pour, tous les arguments contre. Et puis, on a fait notre travail de pédagogie démocratique, de discuter partout, etc. Et à la fin, on dit « Ah oui, oui, mais il n'y aura personne. Si tu as 10% de participants, hein, 10% de participants, ça sera un grand succès. » Et à la fin, on a eu, on est quand même un peu urbain chez nous, ça vote moins que dans la ruralité, hein, on a eu 52% de participation. Sur un truc dont personne ne parlait à la radio, personne n'en parlait, il n'y avait que dans notre ville. Et un des quartiers de la ville est un quartier très urbain qui vit avec Montpellier et qui ne s'intéresse pas nécessairement aux affaires du village, vous voyez ce que je veux dire. 52% sont venus. Et le scrutin était sans appel. 95% ont voté pour la régie. Aux élections cantonales, j'ai pas 50% de participation. Regardez les élections législatives partielles, très peu de participation. Et là, il y a... Donc on est, on est même meilleur que les élections régionales. Donc ça signifie qu'il y avait un vrai intérêt des gens. Et les gens ont voté à 95% pour la régie, mais n'imaginez pas que Gravel, les gens votent à 95% pour la France insoumise. Hein. Non, Mélenchon, il y avait 23-25% des voix dans les communes. Et puis ça serait parti. Et j'ai vu que dans une population qui n'était pas nécessairement au départ d'accord avec mes autres idées politiques, disait... Ah oui, monsieur le maire, l'eau, il faut que ça reste à la commune, faut que ça reste à nous. Et c'est une vieille histoire. C'est une vieille histoire qui est enracinée dans l'histoire des villages. Dans mon village, il y a un château dans lequel il y avait un massan. Hein, des hauts de massan, pas de massan, bon, voilà. Il y a un massan. Et en 1710, par là, il a décidé de faire payer l'eau aux paysans. L'eau qui coule, hein. Voilà, il l'a fait payer. Et là-bas, on avait nos brigadières qui lavaient le linge avec ça. Et donc, elles étaient obligées de payer l'eau avec laquelle elles lavaient le linge. Ils faisaient vivre le village. Ils lavaient le linge des bourgeois et des nobles de Montpellier. C'est comme ça qu'ils arrivaient, que les femmes arrivaient à faire vivre ce village. Et c'était identitaire, l'eau. Et bien, ça a été une des causes de la Révolution. Hein. Et le Massan, il est parti en courant en 89. Et on a récupéré l'eau. Donc, c'est une vieille histoire ancrée dans les... c'est une ressource essentielle. Une ressource essentielle. Et une fois, il y a un vieux qui m'a raconté, il m'a dit « Ouais, il faut toujours avoir de l'eau. » Mais je vais vous raconter une histoire, monsieur le maire. Quand il y a eu le siège des protestants... Excusez-moi, c'est les protestants qui ont siégé les catholiques. Donc, quand il y a eu le siège des protestants, en 1700, je ne sais plus combien, eh bien, ces comtes de catholiques, il me dit... Ils avaient mis le puits en dehors de la cité médiévale. Et donc, on n'avait pas d'eau. Donc, les protestants, ils ont tout simplement attendu qu'on ait soif. À ce moment-là, après, ils ont pris la ville et ils ont détruit l'église. Voilà. Donc, l'eau conditionne tout. Et donc, il y a une vieille histoire, le contrôle de l'eau. Et on était très surpris, voilà, de voir que dans le village, c'était resté quelque chose de profond, même pour des populations très jeunes. Donc, vous voyez, je pense qu'il faut faire des régies à personnalité morale, dans lequel il y ait une vie démocratique et citoyenne pour que les gens s'approprient la question de l'eau, qu'ils puissent contrôler la situation de l'eau. Donc voilà, c'est possible de passer en régie. Et aujourd'hui, vous avez une bataille de chiens qui se mène sur la fin des contrats qui sont prévus. Là, dans le Gard à côté, là, à Nîmes, vous avez une situation scandaleuse, puisque le maire... Le président de la métropole, il a décidé de renouveler le contrat avec... oui, c'est la métropole, c'est la chose, c'est ça. De renouveler le contrat avec la SOR. Donc, avant les élections de 2020, pour je ne sais plus combien d'années, à quoi ça sert d'aller voter. Donc, copains se battent pour obtenir que ce soit les électeurs qui tranchent, que ce ne soit pas le conseil actuel, et qu'il y ait un vrai débat public, parce qu'il y a un problème derrière. Regardez, sur Nîmes, le taux de rendement du réseau de Nîmes, qui est un très vieux réseau, donc c'est normal, mais il a été très mal entretenu, il est de 60%. Ça signifie que quand il sort de l'usine de traitement d'eau, sans eau, n'arrive chez les particuliers et les abonnés que 60. Et donc, il y a 40% de l'eau traitée qui repart dans la nature, n'importe comment. C'est un gâchis incroyable de faire ça à une époque où justement il va falloir qu'on préserve les ressources en eau. Donc il est absolument essentiel d'investir dans l'eau. Alors, dernier point, puis après, ben, je m'arrêterai là pour discuter, parce que je serai trop long. Dernier point, c'est qu'on peut aborder la question du prix de l'eau. Alors, le prix de l'eau, il est composé de trois parties. Première partie, le prix de l'eau potable. Deuxième partie, le prix de l'assainissement. Troisième partie, ce qu'on appelle les taxes. Donc, il y a des taxes particulières, la TVA. La TVA sur l'eau est à 5%, la TVA sur l'assainissement à 10%. Et puis, il y a la redevance que vous payez à l'agence de l'eau. L'agence de l'eau, qui est tout le bassin Rhône Méditerranée dont on fait partie, et qui renvoie cet argent sous forme d'investissement et d'aide à vos investissements. Donc, ce n'est pas tout à fait une taxe, c'est une mutualisation de nos moyens. Pas comme la TVA, donc vous êtes sûr que ça va dans la poche du gouvernement, la TVA, et il en fait ce qu'il veut. On le voit en ce moment, il en fait ce qu'il veut. D'accord ? S'il veut faire des cadeaux aux riches, il utilise ça. Donc, ça signifie que la TVA, c'est une vraie taxe. Discutable. Par contre, la redevance, ce n'est pas tout à fait une taxe. Je le dis parce que les gens tombent pas compte. Donc, je vous laisse de côté l'assainissement, parce qu'à Montpellier, on n'a pas encore passé l'assainissement en public, et je pense que c'est l'une des causes de mon éviction. Donc, je vois que je suis filmé, donc ça. Monsieur Sorel, je lui parle directement. Je pense que c'est l'une des causes de mon éviction, le fait que je me sois prononcé en janvier 2017 pour commencer une campagne pour qu'en 2021, nous passions en public pour l'assainissement. Et là, l'assainissement, c'est un peu plus compliqué que l'eau, techniquement, et ça rapporte plus. Donc, Veolia, Suez, sort, on passe les CFR. On se bat. À nous de ne pas nous laisser faire, de nous battre pour qu'il y ait un retour en 2021 de l'assainissement. Donc, il y a deux parties. Donc, je traite au nom de l'eau potable, je laisse tomber les redevances. Donc, sur un prix au mètre cube, hein, de 3 euros à peu près 50 en moyenne en France, eh bien, l'eau peut représenter entre 1,20 € et 1,50 € hors taxe, l'eau potable. À Montpellier, je vais donner des chiffres, donc j'ai dit doucement, à Montpellier, l'eau était vendue 1,29 €. Et la collectivité touchait 14 centimes et Veolia touchait 1,15 €. 1,15 € plus 14 centimes égale 1,29 €. La collectivité était chargée des investissements lourds, les tuyaux à refaire, les rues, quand on refait une rue, on refait, etc. C'était la collectivité avec 14 centimes. Et Veolia était chargée du fonctionnement, de faire tourner le système et fournir aux gens. Et les petits investissements propres aux usines. Ah, une usine, en fait. Parce que toute cette eau, elle nous est fournie par la nature. Hein. C'est une eau là, c'est naturelle. Elle ne nécessite pas un traitement. C'est pas comme l'eau du Rhône. Hein. Celle-là, elle a une autre qualité. Et donc, voilà le dispositif. Et c'était manifestement très rentable pour Veolia. Donc, nous, on arrive en responsabilité. On fait un audit de tout. Et le directeur de la régie, qui est un gars formidable, je ne l'ai surtout pas pris dans la région, j'étais un gars qui avait fait ça ailleurs, ça j'étais sûr qu'il ne faisait pas partie du réseau des copains et des coquins locaux. Hein. Enfin, très attention ici. Et donc, il est arrivé, nickel, super, toujours là, responsabilité, c'est très bien. Et il me dit, il faudrait qu'on étudie combien ça nous coûte, nous, de faire la même chose que Veolia. Les salaires des ouvriers, les interventions, le traitement d'usine, tout ce que ça coûte, tout ce que ça nous coûte. Et j'ai attendu avec une certaine angoisse de moi sa réponse. Il arrive, il dit, moi, au maximum, ça me revient 75 centimes de faire le même travail que Veolia. Et Veolia, lui, recevait 1,15€. D'accord ? Donc, ils ont poché 40 centimes de marge. 40 centimes de marge multiplié par 30 millions de mètres cubes chaque année, à la fin, ça vous fait un beau pactole. D'accord ? Donc, c'est incroyable. Incroyable. Et il me dit, en voyant là, et ensuite, sur les deux années d'exercice qu'on a pu suivre, 2016-2017, en fait, ça revient autour de 65-68 centimes. Donc, il est arrivé à moins. Alors, naturellement, à ce moment-là, moi, je vais voir le président de la métropole, et puis je lui dis, j'envisage de baisser le prix, mais un peu. Et je lui explique ce que je viens de vous expliquer. Il me dit, mais baisse de 40 centimes. Je lui dis, hein, je ne vais pas baisser de 40 centimes. Parce que avec les 14 centimes qu'on avait avant, on n'a pas beaucoup investi. On a pris du retard. Et on a des fuites dans le réseau. Si Montpellier n'a pas un taux catastrophique, c'est parce que c'est une ville assez neuve et qu'il y a beaucoup de quartiers neufs où les tuyaux sont récents. Mais dans des anciens quartiers, il faut refaire les canalisations. Et on était loin du taux de 82%, qui est le taux recommandé par l'agence de l'eau, de rendement. C'est le taux normal. On peut monter au-dessus de 82%. On n'arrivera jamais à 100%. Mais on peut monter au-dessus. Voilà. Et il dit, bon, ben, fais ce que tu veux. Et je lui dis, ben, on baisse le prix de l'eau de 10% pour rendre aux usagers de l'eau une partie de l'argent que Veolia leur a pris. C'est comme ça que ça s'est passé. Et puis, la différence, on l'utilise pour investir. Voilà. Et donc, nous, cette différence, on l'investit. Résultat, les investissements dans l'eau ont été la première année, l'année où vous gérez, vous savez, l'année où déjà il faut ramasser les factures, que les gens payent, c'est pas une année phare, la première année. La première année, on a multiplié l'investissement par 3, la deuxième année par 5. Ça signifie qu'il y avait un déficit énorme en termes, et ça donne du travail aux entreprises locales, et ça sécurise le réseau d'eau, et c'est important de le faire. Donc ça prouve que on peut baisser un peu le prix de l'eau, parce que voilà, aujourd'hui, c'est aussi un point important dans les factures. On peut faire aussi des tarifs sociaux qui permettent, en fonction des personnes qui ont des revenus faibles, pour qu'ils aient l'eau. Alors, il y avait une autre initiative qui peut être menée, qu'on se préparait à faire, et naturellement n'a pas été mis en œuvre, c'est pour que, à l'échéance de 2020, nous nous préparions à passer au premier mètre cube gratuit. C'est-à-dire que les premiers mètres cubes qui sont fournis à une famille, les mètres cubes qui permettent de la survie minimale d'une famille, etc., ça soit gratuit. Vous savez que maintenant, grâce à la bataille qu'on a menée depuis des années, les coupures d'eau sont interdites. Ça n'empêche pas que parfois ils les font. Mais c'est officiellement interdit. On n'a plus le droit de couper de l'eau à quelqu'un. On peut toujours lui couper l'électricité, mais pas l'eau. Or, parfois ils le font, donc là, il faut sauter dessus, faire un scandale, parce qu'ils n'ont pas le droit. Et on gagne toujours. Donc, les premiers mètres cubes gratuits, ça sanctuarise le fait qu'on ne peut pas empêcher les gens d'avoir un conteneur de l'eau. Essentiel. Et puis ensuite, que vous ayez un tarif qui devient progressif à partir du moment où il y a un usage de l'eau de manière, voilà, le gars qui remplit sa piscine avec son eau potable, il a le droit, mais il doit payer plus cher. Hein, entre une piscine normale, ça vous fait 60 mètres cubes. 60 mètres cubes, c'est la moitié de la consommation d'une année d'un couple avec deux enfants. Donc, c'est pas normal. Donc, il faut que les piscines, ça soit plus cher. Voilà. Donc, les gens qui décident d'avoir un usage ostentatoire de l'eau, je ne sais pas, ben, d'accord, très bien, mais qui payent. Et ils vont payer beaucoup plus. C'est progressif. Donc, ça entraîne des comportements normaux, ce qui signifie que tout le monde a accès à l'eau, y compris les plus pauvres ont accès à l'eau gratuite. Et puis, on a une progression. Donc, on voulait s'orienter là-dessus. On le reprendra en 2020 dans la campagne. C'est des choses qui vont se mettre en place. Donc, je suis certain qu'on peut arriver à les mettre en place. Donc, voilà un peu le dispositif au niveau de l'eau, comment il s'est conçu. Alors, maintenant, il y a des situations locales qui sont différentes selon les villes, selon l'ampleur des villes. Alors, on me dit. Alors, au début, on disait. Alors, c'est marrant, les arguments sont contradictoires. Au début, on disait Montpellier, c'est pas possible, Montpellier, c'est trop grand. C'est trop grand. trop important, on ne peut pas faire de régie, il faut que ce soit une entreprise. Alors on a apporté la démonstration, c'est-à-dire, oui, c'est vrai, en fait, c'est beaucoup plus grand que Paris. Paris, c'est une régie. Ah oui, d'accord, bon, ok. Donc l'argument, c'est trop grand, il a été balayé. Et maintenant, je suis allé l'autre jour dans le Biterrois pour une réunion un peu particulière de maires qui m'avaient invité pour débattre, pour présenter des problèmes de régie. Et on leur dit, ah ben vous, il vaut mieux que ce soit une entreprise qui s'occupe parce que vous, maintenant, vous êtes trop petit. Vous êtes trop petit. Alors vous n'avez pas les compétences, vous ne savez pas faire. Alors, je leur dis, mais c'est délirant. Les communautés de communes, ça, vous n'êtes pas petit. D'accord, vous avez 20 000 habitants, 30 000 habitants, donc il ne vous faut pas comme nous 70 salariés. Mais 7-8 salariés dans une régie, c'est parfait, puisque c'est ceux qui sont là. Et les gars, au lieu de faire des kilomètres tous les jours, ils habiteront dans le secteur où ils travaillent. Donc c'est parfaitement possible. Et on a plein d'endroits où des régies sont faits dans ces zones-là. Voilà, donc c'est garder ça. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que ça va permettre de lancer la discussion sur plein de choses. Mais bon, s'il faut développer une politique de rupture, il faut la développer dans tous les secteurs. Et l'eau est un secteur dans lequel on peut s'adresser à toute la population parce qu'elle se sent très vite concernée.